Pour une heure en Palestine, comme chaque semaine. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec les nouvelles pour le mois de septembre. Dès le 30 août, d'ailleurs, au cinéma La Baleine, sur le cours Julien, le superbe film Alam, du réalisateur Firas Khoury, est à découvrir avec une soirée spéciale le 6 septembre à 20h30, en présence du réalisateur et dans le collectif Palestine en résistance sera partenaire le 12 septembre à 19h à la librairie Transit. Découvrons l'ouvrage du dessinateur et caricaturiste palestinien Mohamed Sabaneh intitulé « Je ne partirai pas, mon histoire est celle de la Palestine », ouvrage édité par les éditions marseillaises Alif Bata. Le 13 septembre, toujours à 19h, et au Polygone étoilé, projection du film Beautiful Resistance, peindre ses résistés, suivi d'un buffet avec une participation aux frais souhaitée pour aider à financer le déplacement du caricaturiste. Et comme vous le savez, les subventions aux associations qui soutiennent la Palestine seront rares. Et donc, c'est pour cela que nous nous appelons à la solidarité avec des petites participations pour des buffets, pour des entrées. Voilà. Ensuite, on passe au mois d'octobre. Et le 14 octobre, nous aurons une grande conférence à Marseille, 30 ans après Oslo. C'est un samedi et c'est à 14h, en présence d'une invitée venue de Gaza, mais aussi avec l'avocat Gilles Devers, qui représente la Palestine auprès de la Cour pénale internationale, de Nada Awad, une jeune Palestinienne juriste, et de Asha Zaino, une doctorante, non post-doctorante, pardon, qui travaille à l'IREMO et qui a écrit un ouvrage sur les prisons, des hommes dans les prisons. Voilà, et tout de suite, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus léger, avec un entretien avec Jean-Marie Dansette, le Philistin. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour.
Ah, on t'entend peut-être pas très bien. En tout cas, moi, dans le retour que j'ai dans le casque est léger.
Là, ça va, là.
Parle un peu plus fort, peut-être. Voilà. Voilà. Alors, Jean-Marie, tu es importateur et distributeur de produits palestiniens et tu organises un festival tous les deux ans qui s'appelle Palestine en campagne.
Oui.
Voilà. Alors, comment est née l'idée de ce festival et qu'est-ce que c'est ce festival ?
D'accord. Donc il faut d'abord bien séparer les deux activités. C'est-à-dire que nous avons une activité d'importation de produits de Palestine, mais depuis la création de l'association Le Philistin, la vocation c'est de faire connaître la société palestinienne d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. Et c'est pour ça qu'en 2013, on a organisé la première édition du festival, puisque c'était l'anniversaire, c'était les 10 ans de l'association Philistin. Voilà. Et alors, ce festival a lieu, on l'organise tous les deux ans, c'est très très lourd à organiser, parce que on fait venir environ 30 à 40 Palestiniens. Ce sont des Palestiniens qui vont venir aussi bien de Palestine de 48 que de Gaza, c'est-à-dire de toute la Palestine. Et ce qui est un point important dans cette organisation, c'est que nous essayons de réunir à Gage, donc sur en Aveyron, à côté de Rodez, sur le site, nous invitons des Palestiniens aussi bien de Palestine de 48, de Cisjordanie, de Jérusalem, de Gaza et des camps de réfugiés, c'est-à-dire des Palestiniens qui ne peuvent pas se retrouver sur leur terre, mais qui vont se retrouver en Aveyron, quoi. Voilà, pendant 3 jours. C'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors, ça se passe dans ce petit village, justement, et cette année, je crois que tu as pu le remarquer, il y a une grosse délégation qui viendra de Marseille, et nous en sommes très heureux, nous avons fait quand même connaître depuis des années ce festival. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme qu'il va y avoir cette année, et comment toi tu fais tu sélectionnes ou comment te viennent les demandes de participation des artistes palestiniens ?
Voilà. Alors, bon, évidemment, depuis 20 ans, je vais en Palestine régulièrement. Nous travaillons avec les Palestiniens, donc on a vraiment un bon réseau et même, je veux dire, une notoriété, puisque même des touristes palestiniens qui viennent à ce festival. Donc là, j'étais au mois de mai dernier en Palestine pour rencontrer les gens qui vont justement être présents. Le programme, si on part d'un point de vue géographique de Acca, c'est-à-dire Saint-Jean-d'Acre, hein, en Palestine de 48, on fait venir un journaliste qui écrit dans Middle East Eye, donc un Palestinien de 48, qui parle de la situation des Palestiniens et confronté au gouvernement israélien, hein, qui vivent en Palestine de 48, voilà. Nous faisons venir de Jénine Mohamed Sabaneh, qui est un caricaturiste, et d'ailleurs qui est connu sur Marseille, puisqu'il est déjà venu au moins une fois au festival de caricature à l'Estac.
Tout à fait.
Voilà, donc là, on aura son exposition. Il interviendra bien sûr et il présentera le livre qui vient de BD quoi, qui enfin de caricature qui vient de d'éditer, hein, qui est tout nouveau. Et là donc il y aura l'occasion de présenter son livre. Alors donc Mohamed Sabaneh. Ensuite on aura les musiciens de Naplouse. À Naplouse, donc on a un groupe de musiciens. On change toujours. Hein, c'est souvent des musiciens de Naplouse, mais c'est jamais les mêmes. À Naplouse, on fait venir aussi un Samaritain. Un Samaritain, les gens ne savent pas en général qui sont les Samaritains. Ce sont des gens qui vivent, qui lisent la Torah, qui parlent arabe, ont un passeport palestinien et qui font le Shabbat. Mais quand je pose la question, on dit oui, le bon Samaritain, la Samaritaine, mais on ne sait pas qui sont. Donc là, Eyab, lui.
Je crois qu'il y a une coupure, Jean-Marie. Je ne sais pas si on a été déconnecté. Est-ce que tu peux essayer de... Voilà, Sidi va essayer de le rappeler. Et en attendant que Jean-Marie revienne, je voulais aussi vous parler de ce livre qui est en train de sortir. Je viens de le découvrir moi-même. C'est un livre que de Salah Amouri, un livre qui s'intitule « Prisonnier de Jérusalem ». Et il a été publié aux éditions Libertalia, donc vous pouvez courir chez votre libraire pour le commander à partir du 31 août. Dans toutes les bonnes librairies de France, vous pourrez commencer à aller le chercher aux éditions Libertalia. Salah Amouri, prisonnier de Jérusalem. Je suis sûre que votre libraire sera enchanté de passer prendre la commande. Et nous espérons pouvoir à ce moment-là accueillir à nouveau Salah Amouri qui viendra présenter son livre. En attendant qu'on se reconnecte avec Jean-Marie, et je le disais tout à l'heure, donc nous allons partir une bonne vingtaine, au moins une quinzaine de Marseillais, n'exagérons pas, une bonne quinzaine de Marseillais pour nous retrouver à Gages. C'est un tout petit village dans l'Aveyron. Alors si les 11, 12, 13 août... c'est-à-dire pas ce week-end qui arrive, mais le week-end d'après. Si vous êtes en vacances, si vous avez envie de passer un très bon moment, et si vous aimez le camping, vous pouvez venir à Gages, ou alors trouver une location dans les environs, et vous pourrez participer à ce fabuleux festival. Vous allez chercher sur le site internet, sur internet, vous tapez « Palestine » en campagne et vous vous inscrivez. Il y a une participation qui est demandée pour les 3 jours. Vous pouvez assister alors à des... Ben Jean-Marie, on n'arrive pas à le reconnecter. Je pense qu'il doit avoir un problème de batterie parce que, peut-être qu'en fin d'émission, il aura rechargé son téléphone et on pourra à ce moment-là le rappeler ou peut-être qu'il nous rappellera lui-même, puisque de partir de son portable, il pourra rappeler la radio. Voilà, eh ben, écoutez, on improvise. Hein. Je reviens sur les informations qui arrivent de Palestine. Et c'est une information que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Selon le site internet de Ma'ariv, le ministre raciste et suprémaciste Itamar Ben-Gvir a publié un amendement qui interdit la libération anticipée de détenus palestiniens. Il a déclaré qu'il travaille pour stopper l'amélioration des conditions de vie des terroristes dans les prisons et promet davantage de punitions. Il a rappelé que depuis son arrivée, il a interdit le pain frais pour les prisonniers palestiniens, qu'il a réduit leur consommation d'eau au minimum et qu'il a éliminé la prise en charge pour les soins dentaires. Voilà, nous avons des prisons et nous avons aussi les corps de résistants abattus qui sont conservés dans des frigos, puisque la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, le 25 juillet, les forces d'occupation israéliennes ont assassiné 3 résistants dans leur voiture à Naplouse, ce samedi matin, à Jabal Jassim, et refusent de rendre leur corps aux familles. Les 3 victimes sont Noureddine Taysir Larida, 32 ans, Muntasir Bajad Ali Salamé, 33 ans, et Saad Mahal Graz, 43 ans. Elles ont en outre empêché l'accès des médecins et des journalistes à la voiture dans laquelle ils ont été tués. Les affrontements se poursuivaient dans d'autres villes et villages où l'armée coloniale multiplie les invasions, comme à Ni'ilin, à l'ouest de Ramallah, à Beïta, à Beït Omar, ou dans le camp d'Aïda à Bethléem. Voilà, ce sont les tristes informations, un extrait des tristes informations qui nous arrivent de Palestine. Je voudrais ajouter aussi le sinistre sort qui est fait à ce jeune Palestinien Ahmad Manasra, qui avait été grièvement blessé. Les personnes qui l'ont agressé ont prétendu qu'il avait tenté de tuer avec son cousin un colon qui se trouvait dans la banlieue de Jérusalem. Le cousin a été tué, lui a été très gravement blessé au crâne. Il est depuis lors détenu, il serait libérable en 2024 et il souffre de troubles psychiatriques graves. Il ne reçoit absolument aucun soin. Malgré toutes les demandes qui ont été faites, il a été transféré dans la prison de Ramleh et il est gardé à l'isolement depuis. Voilà, c'était les informations et peut-être que l'on va faire une pause musicale avant d'appeler un autre intervenant, mais pendant que on passe à la musique, je pense que c'est Mohamed Assaf qui va chanter. Mohamed Assaf, vous savez, c'est ce jeune Palestinien de Gaza qui avait traversé tout un tas de difficultés pour arriver jusqu'à Arab Idol où il avait remporté le prix. Et depuis, c'est un des artistes célèbres dans le monde arabe. Et puis, on partira vers une autre ville de Palestine. On partira vers Hébron avec un invité, le docteur Anouar Boéché. Voilà, nous partons avec Mohamed Assaf, non ? Non. Eh bien, aujourd'hui, c'est la surprise technique. On a quelques difficultés. Arrivons directement avec Hébron. Et puis si on arrive à connecter la musique, eh ben, on aura de la musique entre l'article et l'appel du docteur Aboéché. Cet article, il est extrait de la revue de l'association France-Palestine Solidarité. C'est le numéro de mai 2023, le numéro 20, et écrit par Cécile Renaud. Aujourd'hui, Hébron n'est plus un lieu honteux. Au contraire, c'est devenu un modèle, un symbole, témoigne Yehuda Shaul, cofondateur de l'ONG israélienne Breaking the Silence, qu'il a contribué à créer durant son service militaire à Hébron. C'est à Hébron que l'occupation a inventé des méthodes reproduites par la suite partout en Cisjordanie. Protection militaire des colons, séparation des populations, routes réservées aux Israéliens, couvre-feu dont ils sont exemptés, harcèlement nocturne, arrestation et expulsion de Palestiniens, contrôle systématique de leurs déplacements, caméras de surveillance et récemment, fichage d'une population entière par reconnaissance faciale. En 1967, quand Israël s'empare de la Cisjordanie, le maire palestinien de Hébron, Mohamed El-Jabari, se veut conciliant avec ce nouvel occupant venu après les Ottomans, les Britanniques et les Jordaniens. lorsqu'en 1968, le rabbin sioniste et fasciste Moshe Livinger occupe avec sa communauté l'hôtel Park au milieu de la ville, le maire propose même de l'installer sur un de ses terrains. L'endroit deviendra Kiryat Arba, la première colonie de Cisjordanie et l'une des plus extrémistes. La première colonie de Cisjordanie, là où réside aujourd'hui Itamar Ben-Gvir, ancien voyou, promu ministre de la Sécurité nationale, celui-là même dont on parlait tout à l'heure et qui sévit sur les prisonniers palestiniens, entre autres. Cet acte devient un modèle. Il y a aujourd'hui 668 000 colons dans les territoires palestiniens occupés. Au cœur de la vieille ville, les soldats sont partout, dans les rues, aux checkpoints, sur les toits. Leur mission, protéger environ 800 colons agressifs venus s'y installer. Un accord avec l'autorité palestinienne en 1997 a divisé Hébron en deux zones. H1, sous l'autorité du gouvernement palestinien, qui est peuplé de 210 000 Palestiniens, et H2, l'essentiel de la vieille ville, contrôlée par Israël. La rue Chouada, longue d'un kilomètre, est aujourd'hui et autrefois le centre animé de la ville, mène au tombeau des patriarches. Elle est interdite aux Palestiniens, obligés de faire des détours pour aller y prier. Les portes de leurs magasins et de leurs habitations ayant été soudées, la vieille ville s'est vidée peu à peu de ses habitants palestiniens. L'ancien marché aux légumes déserté fait aujourd'hui l'objet d'un projet de construction d'habitations pour colons. De 2015 à 2017, plusieurs familles sont parties de H2, car la vie était devenue trop dure. Il y avait les restrictions de circulation, la pression et les menaces des colons. On se sentait en danger. L'armée tirait sur les gens, c'était devenu normal. Au moins 24 Palestiniens ont été abattus dans une zone qui fait moins d'un kilomètre carré, témoigne un militant de Youth Against Settlements, YAS, c'est-à-dire YAS. Son cofondateur, Issa Amrou, fait face depuis des années à des inculpations répétées. Vêtu de gilets portant en anglais, en arabe et en hébreu le mot « observateur », des jeunes de cette organisation ont accompagné des enfants à l'école après la fin du mandat des observateurs de la présence internationale temporaire à Hébron, fin janvier 2019. Lors de patrouilles quotidiennes, ces observateurs documentaient les violations des droits dont ils étaient témoins, mais n'étaient pas autorisés à intervenir. D'ailleurs, leur inefficacité, car ces rapports qu'ils faisaient avec soin n'étaient jamais pris en compte par les autorités des Nations Unies qui avaient créé ou de l'Union européenne. Bien au contraire, et les habitants d'Hébron se moquaient un petit peu en les appelant les vendeurs de glace, car ils étaient venus vêtus de tenues blanches pour que l'armée israélienne puisse les identifier et ne pas leur tirer dessus. Donc, le samedi 19 novembre 2022, des milliers d'Israéliens sont venus de toute la Cisjordanie à Hébron pour la marche annuelle durant laquelle est lue la vie de Sarah. Ils étaient des centaines, si ce n'est des milliers, avec encore plus de soldats pour les protéger. Et ils ont attaqué tout ce qui était palestinien. Les gens, les magasins, les mosquées du quartier, explique un commerçant. Un autre déplore. Ils essaient de faire de ce quartier de Bab el-Zawiya, théoriquement sous le contrôle de l'autorité palestinienne, ce qu'ils ont fait à la rue Chouada. Cela a commencé avec l'armée, puis les colons se sont emparés de maisons, puis les attaques ont augmenté, et maintenant, il ne reste presque plus de Palestiniens au cœur de notre ville. Voilà. Si maintenant c'est possible, peut-être qu'on fait une petite pause musicale, ou bien tu as pu avoir... Non. On n'aura pas Jean-Marie aujourd'hui, mais par contre, on peut avoir une pause musicale au cours de laquelle on essaiera d'appeler le docteur Abou Eiché qui nous parlera d'Hébron. C'est parti pour soit Mohamed Assaf, soit Dominique Grange. Voilà. Thank you.
dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y...
Et voilà, miracle de la technique, on a retrouvé Jean-Marie Dansette. Jean-Marie.
Oui, en Aveyron. Alors, l'Aveyron, c'est, il y a beaucoup de... On dit que c'est un département où il y a plus de brebis que d'habitants, donc c'est pas trop bien couvert au niveau réseau. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Mais là, je suis en situation là où normalement ça devrait marcher. Et je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Quoi. Donc,
alors, ça a coupé au moment peut-être où tu nous parlais de comment tu sélectionnais les artistes. Tu disais qu'il y avait même des touristes palestiniens qui venaient à Gages.
Ouais. Voilà. Hein, et je disais que donc il y avait des Palestiniens qui venaient d'un petit peu partout en Palestine, que ce soit en Palestine de 48 ou de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem et des camps de réfugiés. Donc pour parler du programme, donc d'un point de vue géographique, si on prend en haut à Akka, à Saint-Jean-d'Acre, on a un journaliste qui écrit dans Middle East Eye, qui s'appelle Anton Schulut. Les noms, je ne les prononce pas forcément bien, mais donc lui, un journaliste qui va nous parler de la situation des Palestiniens de 48 en Israël. Ensuite, Mohamed Sabané, qui est caricaturiste, qui est connu même à Marseille, puisqu'il est déjà...
Oui, il sera là en septembre.
Voilà. Ensuite, là, il va présenter son livre là, de BD. On a ensuite, à Naplouse, on a les musiciens. On a les musiciens qui viennent. C'est toujours souvent des musiciens de Naplouse, mais on change toujours de musiciens. Après, on a aussi de Naplouse, on fait venir un Samaritain. Donc les gens ne savent pas ce que
c'est une secte juive.
Ben oui, ils font le Shabbat et pourtant ils ont un passeport palestinien et ils parlent l'arabe. Hein, et Yab, lui, il est proviseur dans un collège à Naplouse. Bon, à Naplouse, on fait venir aussi le masseur du hammam de Naplouse, qui va faire les massages pour ceux qui le souhaitent. Hein. On fait toujours venir quelqu'un de la société civile, quoi. Hein. C'est pas que des artistes, c'est vraiment un petit peu toutes sortes de gens. Après, on fait venir Kanan Rouli, c'est le producteur de vin, hein, puisqu'on importe le vin de Palestine et la bière de Taïbé. Mm-hmm. Hein, la bière de Taïbé qui est assez connue. Après...
Il y a Iyad Alastal qui vient de Gaza. Ah, c'est encore le même problème de coupure de réseau. Ah bah écoutez, on continue. Donc, je le dis, il y aura Iyad Alastal qui vient de la bande de Gaza. Iyad, c'est le réalisateur. Il a largement contribué au film Yalla Gaza, qui a été projeté à Marseille à la fois au César et aussi à l'Alhambra. Il est aussi le réalisateur d'une série que vous pouvez trouver sur YouTube. Et. Qui s'appelle, ben son nom m'échappe immédiatement, qui est sur Gaza. Donc vous tapez Iyad Alastal, A-L-A-S-T-A-L, Yad, I-Y-A-D, et vous allez trouver Gaza Stories, des petits documents de 3 minutes qui sont des perles et qui parlent de la vie des Palestiniens de Gaza. Alors, on va continuer par essayer de recontacter Jean-Marie, mais surtout, peut-être qu'on peut appeler le docteur Abouéché, parce qu'on arrive maintenant, il est 18h26. Et puis, on verra si Jean-Marie peut revenir en fin d'émission ou s'il est revenu là. Aujourd'hui, c'est folklorique, notre émission, avec tous ces problèmes de connexion. Mais écoutez, on fait pour le mieux. C'est peut-être la chaleur aussi. Et on essaye de tenir bon. Voilà. Je vois à travers la vitre que Sidi est en train d'appeler. Moi, j'essaye de tenir l'antenne. J'aime bien un texte que je vous lirai, mais je pense qu'il est long et qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, c'est un article très intéressant qui date d'il y a 2 ans quand même. Donc, je vous présente le sujet et puis on n'aura peut-être pas le temps d'aller très loin. Mais en tout cas, c'est un article qui est, je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs, « La Cisjordanie, poubelle de l'État hébreu ». Et c'est un rapport d'une ONG israélienne et de l'ONG Betselem qui met en exergue l'utilisation qui est faite des territoires palestiniens occupés de Cisjordanie, où les autorités israéliennes ont installé 15 installations de recyclage et traitement de ces déchets industriels et médicaux, dont l'activité met en péril la santé des habitants et nuit gravement à leurs ressources naturelles, au mépris, là encore, du droit international. L'État d'Israël, qui occupe depuis 1967 le territoire palestinien de Cisjordanie, ne se contente pas d'y avoir transféré à un demi-siècle près de 700 000 de ses concitoyens, ce qui est une violation du droit international, en comptant les colonies de Jérusalem-Est, dont 700 000 colons. Plus discrètement, mais dans le même mépris du droit international et de la population locale, il a aussi transformé ce territoire occupé en décharge pour ses déchets domestiques et industriels, surtout lorsqu'ils sont particulièrement dangereux pour l'homme et pour l'environnement. C'est ce que révèle l'organisation israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, dans un rapport daté de décembre 2017, « Made in Israel, Exploiting Palestinian Land for Treatment of Israeli Waste », c'est-à-dire fabriqué en Israël, exploitant les terres palestiniennes pour le traitement des déchets israéliens. Disponible depuis lors, ce rapport a eu assez peu d'écho en Israël, comme à l'étranger, bien évidemment, vous le savez. Il y a quand même en France la capacité de faire disparaître totalement ce qui se passe en Palestine occupée. Ce n'était pas le cas avant, mais c'est vraiment aujourd'hui une grosse difficulté d'arriver à avoir des informations sur la Palestine. Alors, ce que je vous propose, on refait une pause musicale. Sidi, est-ce que tu peux nous remettre la dernière chanson de Dominique Grange? Et puis, pendant ce temps, on essaye d'appeler le docteur Abouéché. Sinon, si on a encore des difficultés à le joindre, eh bien, on continuera sur ce texte, la Cisjordanie, poubelle de l'État hébreu. Et puis, il y a beaucoup d'informations qui sont là. Et on ne manquera pas de quoi terminer notre émission dans les 30 prochaines minutes. Voilà, on repart pour une pause musicale. À tout à l'heure. 88.4 sur Radio Galère. Et on reste à l'écoute de Dominique.
Derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Voilà, c'était donc Dominique Grange qui nous parlait du mur qui défigure, le mur de l'apartheid qui défigure la Palestine. Et nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Anouar Abouéché. Alors, comment est-ce qu'on doit vous appeler, docteur, monsieur le ministre, professeur?
Anouar Abouéché, tout court, hein, ça me va, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs.
Voilà, Anouar, alors est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, parce que si vous êtes bien connu dans le milieu des personnes qui travaillent et qui soutiennent le peuple palestinien, pour nos auditeurs, je crois que c'est une première intervention.
Eh bien, je suis un citoyen d'Hébron, Al-Khalil en arabe, là où il y a le prophète Abraham et beaucoup de prophètes qui sont enterrés, et je suis professeur de droit de métier, voilà.
D'accord.
C'est ce qui me convient le mieux, voilà.
C'est parfait. Alors, j'ai lu tout à l'heure un article qui était qui est paru en mai dernier dans le journal de l'AFPS et qui est écrit par Cécile Renaud. Et dans cet article, elle parle donc de Yehuda Shaul, cofondateur de l'ONG israélienne Breaking the Silence. Est-ce qu'à Hébron, vous connaissez bien cette organisation? Quels sont les liens qu'elle peut avoir et qu'est-ce qu'elle y fait?
On connaît bien cette association qui est une très bonne association. C'est une association qui a été fondée suite au service militaire de Yehuda Shaul dans l'armée de l'occupation. Il n'était pas du tout content de ce qu'il a vu, donc avec des camarades à lui,
ils organisent des visites d'Hébron, là où il a fait son service militaire, et ils expliquent l'occupation à beaucoup d'Israéliens et beaucoup d'étrangers. Je salue son travail et je crois que c'est une association de gens qui ont une conscience, une bonne conscience, et qui essaye de montrer la réalité de l'occupation. Et je conseille à tous ceux qui m'écoutent et à tout le monde de faire la visite à Hébron avec lui ou avec ses camarades, parce que ça montre bien les effets de la colonisation au centre de la ville d'Hébron.
Ok. Et puis, la deuxième personne, la deuxième organisation qui est mentionnée dans cet article, c'est l'organisation Youth Against Settlements, qui a été initiée, entre autres, par Issa Amrou. Alors là, cette organisation aussi, je suppose qu'elle vous est familière. Allô, allô. Eh bien, voilà un deuxième problème technique. Et bah, écoutez, on va continuer. C'est ça l'improvisation et le direct, comme diraient nos journalistes de télévision. Donc sur Hébron, eh ben oui, Hébron, c'est dans l'article on le mentionnait, c'est une ville qui est partagée en deux. Au cœur de cette ville sont installées plusieurs petites colonies avec des individus qui, lorsqu'on les voit agir, on peut se demander à quel point l'occupation, la haine, le colonialisme, la déshumanisation de l'autre peut entraîner un tel comportement. Ils pouvaient imaginer d'abord que l'on puisse déverser toutes ces ordures sur l'autre. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire qu'une femme élevée pourtant dans une religion qui a des principes puisse aller traiter de prostituée, pute et autres petits termes infectes une mère palestinienne qui a commis pour seul crime d'être née et de vivre dans cette ville avant même que cette colon israélienne et juive soit arrivée depuis le Minnesota ou je ne sais quel état dans le monde pour venir s'y installer et prétendre que Dieu lui a donné cette terre. Voilà, on a retrouvé, je crois, le docteur Abou Eiché.
Oui, je suis là. Merci.
Voilà, donc on parlait de YAS.
De cette association qui s'appelle Youth Against Settlement, oui. C'est-à-dire jeunesse contre la colonisation, oui. Beaucoup de gens à Hébron essayent de résister, chacun à sa manière, contre cette colonisation qui est le cancer, en fait, dans Hébron, pour un peu expliquer. Hébron, il y a 75 ans, c'était une ville d'un kilomètre carré. Actuellement, Hébron, c'est presque 50 kilomètres carrés. Alors, la colonisation a lieu dans le kilomètre carré, c'est-à-dire autour de la mosquée d'Abraham et au cœur de la ville de mon enfance, la ville où il y avait tous les gens d'Hébron qui y vivaient, quoi. Et donc, Israël a commencé à vider le centre-ville, la ville, la vieille ville, depuis le début des années 80, en 1967, il y avait à Hébron, dans la vieille ville, 35 000 habitants et autour 15 000, ce qui faisait 50 000 habitants. Maintenant, actuellement, il y a presque 250 000 habitants dans 50 km carrés. Mais dans la vieille ville, il y a très peu de monde, entre 3 et 4 000 personnes. Mais la colonisation demande-t-elle la ville d'Hébron? Maintenant, on ne peut pas aller au centre, donc on doit contourner le trajet qui prenait, je ne sais pas moi, un quart d'heure pour traverser de nord au sud. Maintenant, c'est 7 kilomètres, ça prend une heure et demie de route. Et donc, Hébron est une ville qui est occupée par les colons, et c'est la particularité des bronzes dans toute la Palestine, c'est-à-dire que les colons israéliens ont mis la main sur le centre-ville, la mosquée d'Abraham, la ville historique. Mais j'ai envie, si vous permettez, madame, de parler des effets de la colonisation. Est-ce que je peux ?
Bien sûr.
Bon, Alors, en premier lieu, qui parle de colonisation peut parler d'espace. C'est-à-dire que là où il y a les colonies, on manque d'espace pour les Palestiniens. Je donne un exemple avec des chiffres. En 1967, quand il y a eu l'occupation, il y avait à Hébron, comme je viens de le dire, 50 000 habitants. On disposait de 5 terrains de football. Actuellement, on est 250 000 habitants et il y a un seul terrain de football pour les 250 000 habitants. Le droit au sport, ça n'existe pas chez nous.
Encore une petite coupure. Apparemment, on a un droit de parole, nos intervenants ont un droit de parole extrêmement limité. Ben, on va essayer de rappeler le docteur Aboueïché. On improvise et on continue justement à parler d'Hébron. Mais plus juste pour vous donner un exemple et compléter ce que le docteur Aboueïché était en train de dire. Une des dernières fois où je me suis rendue à Hébron, j'étais avec une camérawoman japonaise, Mitsu. Et nous voulions entrer dans la mosquée et nous avons eu une interview par des journalistes, par des soldats qui voulaient absolument connaître notre religion pour déterminer par quel endroit nous devions entrer. Et donc, comme bouddhistes et athées ne leur disaient rien, eh bien, ils ne nous ont pas laissé entrer. Enfin, en tout cas, ils nous ont permis de rentrer en allant du côté des Arabes, mais en nous refusant le droit de laisser nos appareils qui nous interdisaient de rentrer dans la mosquée, alors que dans toutes les autres mosquées, en particulier à Al-Aqsa, on peut rentrer avec un appareil photo, mais là, comme elle est sous contrôle de l'armée israélienne, la mosquée d'Abraham est interdite aux journalistes. En tout cas, ils ne peuvent pas y rentrer avec appareil photo et caméra, y compris dans la partie réservée aux musulmans. Puisque après le massacre qui a eu lieu en 1994, où un fanatique fasciste, Baruch Goldstein, a tiré sur la foule et assassiné plusieurs dizaines de Palestiniens, la répression de l'armée israélienne ayant fait une centaine de victimes par la suite, eh bien ensuite, au lieu de punir les colons qui soutenaient Baruch Goldstein, eh bien, la mosquée d'Abraham a été partagée en deux. Voilà, voilà. On a retrouvé le docteur Aboueïché.
Oui, voilà. Arrêtez de dire docteur.
On a retrouvé Anouar Aboueïché.
Oui. Et donc, bah, je continue à votre place. Je vous parlais du massacre qui a eu lieu à Hébron en 1994, en fait. C'est un colon qui est arrivé à la mosquée, qui a tiré dans les croyants qui faisaient leur prière à l'aube. Il a tué exactement 29 personnes et il a causé des handicaps à plusieurs dizaines. Il y a eu 200 blessés. Et depuis justement ce massacre, cette catastrophe, la ville a été divisée. La mosquée d'Abraham a été divisée en deux et il y a des parties de la ville qui sont fermées aux Palestiniens. Il y a notamment ce truc qui s'appelle la rue des Martyrs qui est long de plus que 2 kilomètres où même le maire de la ville ne peut pas y mettre le pied. C'est interdit aux Palestiniens. Voilà. Donc on a des zones à l'intérieur de la vieille ville et même un peu aux alentours où c'est interdit pour les Palestiniens. Ça crée une ambiance ça crée beaucoup de difficultés pour tout le monde, quoi, pour les Palestiniens, je veux dire, parce que les colons, ils sont de, je ne sais pas, ils prétendent qu'ils sont 800, mais nous croyons qu'ils sont beaucoup moins, ont tous les privilèges. Ils ont la route de contournement, ils peuvent sortir d'Hébron et être à Tel Aviv une heure après.
Oui, et je crois que c'est encore recoupé, donc je me demande quel est cet incident technique qui fait que nos conversations sont limitées. Mais effectivement, donc à Hébron, les colons bénéficient d'un grand nombre d'avantages. Et comme je le disais tout à l'heure, et comme Anouar Aboueïché était en train de l'expliquer, ils bénéficient d'une protection extraordinaire de l'armée israélienne, qui est bien plus nombreuse dans la ville que ne le sont les colons. Et ils sont sous cette protection permanente, C'est d'ailleurs ce qu'avaient pu observer Yehuda Shaul et ses camarades qui se sont levés contre cette occupation extrêmement violente. Et pour ceux qui arrivent jusqu'à Hébron, eh bien, on peut voir les soldats dans la rue et les colons virulents, puisqu'il faut savoir que l'armée israélienne n'a pas le droit d'arrêter les colons. Elle peut juste les calmer, essayer d'intervenir, et que le plus souvent, lorsqu'elle intervient, eh bien, c'est pour arrêter les Palestiniens et non pas pour, au lieu de les protéger et de, d'arrêter ceux qui troublent l'ordre public, comme on aime dire. Voilà, je crois qu'on a peut-être renoué la connexion avec le docteur, avec Anouar Abouaïché. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc voilà. Anouar Abouaïché, vous êtes à nouveau avec nous?
Oui. Bon, je crois qu'on va encore avoir des problèmes techniques.
C'est invraisemblable.
Alors, j'ai envie, avant de vous quitter, de vous dire, venez nombreux voir avec vos propres yeux. Vous allez voir la ségrégation permanente et les effets de l'occupation dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la protection civile, par exemple. Il y a une maison qui a commencé à brûler dans la vieille ville. Les pompiers palestiniens n'ont pas eu le droit d'y entrer. Et donc, on a eu des enfants qui ont été tués, brûlés, il y a 3 ou 4 ans, parce que c'était interdit aux pompiers palestiniens. Voilà. Donc, à Hébron, on peut voir le concentré des effets de l'occupation militaro-coloniale de toute la Palestine. Mais il reste que bon, tout le monde est là et on essaye de résister par tous les moyens non violents pour rester là, chez nous, et de ne pas céder à cette pression militaro-coloniale qui a pour objectif de nous pousser à partir.
Alors, aussi longtemps que ça marche, j'aimerais que vous nous parliez du patrimoine historique de la ville et puis de l'association que vous avez créée.
Oui. Alors, l'association d'échange culturel Hébron France, il y a le mot culture. Et quand on parle d'échange culturel, on parle de tous les éléments, mais en particulier la préservation et le respect du patrimoine culturel. Et donc, depuis 2007, nous avons contribué à la constitution d'un dossier pour que Hébron soit reconnu comme patrimoine universel de l'humanité. Ça l'a été en juillet 2017. Et donc, actuellement, Hébron est patrimoine universel de l'humanité et deux fois, une fois patrimoine universel de l'humanité, point, une deuxième fois, patrimoine universel de l'humanité en danger. Et bien entendu, Israël ne respecte absolument pas ce statut, même qu'au mois de juillet 2017, quand ça a été annoncé, le jour même, Netanyahou, qui est le Premier ministre, a déclaré qu'il donne aux colons d'Hébron 5 millions de shekels pour fonder un centre culturel juif à Hébron. En tout cas, Israël, que ce soit par rapport à Jérusalem ou par rapport à Hébron, se fout totalement de tout ce qui est règles internationales relatives à la conservation et au respect du patrimoine, notamment prévu par l'UNESCO. Voilà, donc, effectivement, c'est une ville où il y a la mosquée d'Abraham avec des cénotaphes de beaucoup de prophètes, et nous avons aussi beaucoup de sites historiques comme Mamré, comme des églises romaines aussi, des églises byzantines, et très souvent, la plupart du temps d'ailleurs, on ne peut rien faire pour les préserver parce que c'est dans une zone C, et j'espère que vous allez expliquer ou que vous avez expliqué ce que c'est la zone C.
Non,
c'est
mais vous allez le faire.
Eh bien, c'est une zone où tous les pouvoirs sont aux mains de l'armée israélienne.
Et cette zone C, c'est la zone, je crois, la plus importante de la Cisjordanie. Il y a 3 ans dans Cisjordanie. La zone A, c'est les villes qui sont sous contrôle de l'autorité palestinienne, contrôle quasiment total, mais tout de même limité, puisque l'armée israélienne peut y rentrer à tout moment et y faire ce qu'elle veut. Et puis, il y a la zone B, où l'autorité palestinienne a une partie, s'occupe en gros, a les pouvoirs d'un maire sur cette zone. Et puis, il y a la zone C, qui est la plus grande et qui contrôle quasiment toutes les terres entre les villes. Est-ce que c'est à peu près ça ? Les petits rats sur le réseau ont encore sévi et la connexion a été à nouveau coupée. Donc ce n'est plus le hasard. On va peut-être investiguer par la suite. Mais malgré tout, Sidi à la technique s'obstine et va rappeler le docteur Abouéché de manière à ce qu'on puisse terminer l'émission avec lui. Il est 18h52, on a encore un tout petit moment, quelques minutes pour parler avec lui, pour qu'il nous parle justement de ces différentes zones et des difficultés qu'il peut y avoir à avoir une véritable vie culturelle et à sauver ce patrimoine historique dans la ville d'Hébron. Voilà, ça y est, la connexion est refaite, donc normalement on devrait tenir quelques minutes jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. Ça n'est plus le hasard.
Il y a un problème de programmation au standard. Mais c'est pas
non. On n'a pas de problème. On a eu le même problème avec Jean-Marie Dansette juste avant, où il nous parlait de Palestine en campagne. Et c'est la première fois qu'il se produit une chose pareille. Donc on se demande si ça n'est pas lié
Si ce n'est pas un complot de l'autre côté.
C'est pas impossible, non, soyons sérieux. Mais en tout cas, c'est étrange, parce que depuis des années qu'il y a des émissions sur Radio Galère, et en particulier l'émission Une heure en Palestine, un tel incident ne s'était jamais produit. Voilà, est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que ce sont des petits rats sur le réseau qui sont en train de grignoter les contacts? En tout cas, je voudrais qu'on revienne justement sur zone A, zone B, zone C. Et est-ce que justement, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a maintenant 250 000 personnes, est-ce que le territoire de la ville est beaucoup plus grand? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas beaucoup plus de terres pour avoir un véritable développement? Et si ces terres autour sont des terres en zone C, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées par la population palestinienne?
Ben, si, c'est absolument nécessaire. Nous avons aussi besoin d'espaces verts. Actuellement, dans la ville d'Hébron, les espaces verts, c'est même pas 1%, alors que dans les colonies autour, notamment la colonie de Kiryat Arba, c'est 20%, par exemple. Donc oui, nous avons besoin d'espaces, que ce soit pour des institutions publiques, comme des installations sportives, ou même pour l'habitation, parce que c'est vrai que on n'a pas d'espace pour construire, pour développer nos institutions. Mais j'ai envie de dire quand même un mot par rapport à cette division zone A, B, C. C'est vrai que actuellement, ça veut presque plus rien dire. Je veux dire par là, avant 2001, effectivement, les forces de l'occupation respectaient la zone A, l'armée israélienne n'y allait pas. Dans la zone B aussi, il y avait un respect, une coopération avec l'autorité palestinienne. Mais depuis 2001, l'armée israélienne est omniprésente partout. Il n'y a plus de zone A ni B ni C par rapport aux forces militaires de l'occupation qui sont omniprésentes partout, mais un peu administrativement, dans la zone C, on ne peut rien faire, absolument rien faire, sans l'autorisation des Israéliens. D'ailleurs, il n'y a pas d'autorisation. Ils essayent au contraire de détruire, que ce soit les puits d'eau, ou que ce soit les installations agricoles, ou même des habitations parfois, des habitations de fortune. C'est automatiquement et régulièrement détruit par les forces militaires ou les colons épaulés par l'armée. Donc c'est une vie vraiment insupportable pour tout le monde. En tout cas, pour résumer peut-être, parce que l'émission va finir là, voilà, et l'armée israélienne et les colons aussi, dominent tout en Palestine. La terre, les espaces, les routes, l'électricité, l'eau, les importations. importations, les exportations. Et l'autorité palestinienne ne domine rien du tout, sauf pour ce qui est administratif et les impôts et, je dirais, la vie civile des gens. Mais même l'autorité palestinienne n'a pas d'autorité sur la terre, ou sur l'espace, ou sur l'eau, ou sur l'électricité. Nous sommes sous occupation militaro-coloniale, avec tout ce qui peut en découler.
Eh bien, écoutez, merci à Noor Abou Aïché. Et puis, comme je sais que vous allez bientôt rentrer en Palestine, mais que vous reviendrez à l'automne, eh bien, nous espérons en novembre, en tout cas, vous accueillir à Marseille, au moins même si c'est dans une petite salle, puisque nous avons beaucoup de difficultés avec notre municipalité, qui craint beaucoup de fâcher les représentants officieux de l'État colonial en France et qui refuse, sous des prétextes fallacieux, de nous attribuer des salles. Mais nous vous accueillerons avec un grand plaisir pour nous parler d'Hébron, pour nous parler de la situation en Palestine. En tout cas, merci beaucoup. Malgré toutes les difficultés, je crois que nos auditeurs ont pu entendre la voix d'Hébron. Et puis, on se retrouve en novembre, je l'espère. À bientôt. Et on continue terminer. Il nous reste à peu près 2 minutes pour lancer le générique. En rappelant que le mois de septembre va être riche en événements à Marseille, puisque dès le 30 août, au cinéma La Baleine, vous pourrez voir le magnifique film Alam. Alam, c'est le drapeau. C'est fait par un réalisateur qui s'appelle Firas Khoury, qui sera présent le 6 septembre à 20h30, toujours à La Baleine. Et le collectif Palestine en résistance et soutient cette soirée. Et soutient évidemment La Baleine qui diffuse le film. Le 12 septembre à 19h à Transit, nous découvrirons l'ouvrage du dessinateur et caricaturiste palestinien Mohamed Sabané, « Je ne partirai pas, mon histoire est celle de la Palestine », édité par les éditions marseillaises Alif Bata. Vous pouvez commander aussi le livre qui sortira donc prochainement. Le 13 septembre à 19h, encore au Polygone étoilé, projection du film « Beautiful Resistance, peindre, c'est résister ». Et puis le 14 septembre, une grande conférence sur les 30 ans après Oslo avec une invitée venue de Gaza, l'avocat Gilles Devers, Nada Awad, juriste palestinienne et universitaire, et Asia Zaino, qui travaille au CNRS Wali Remam et qui est autrice d'un livre sur les prisons en Palestine. Et puis, il rappelle aussi le livre qui vient de sortir de Salah Amouri que nous vous invitons à aller commander chez votre libraire. Donc, 2 commandes à passer pour avoir des informations sur ce qui se passe en Palestine. Le livre de Salah Amouri et le livre de Mohamed Sabané, le caricaturiste palestinien. Voilà, il est 18h59, 1h en Palestine. C'est terminé pour aujourd'hui, malgré toutes les difficultés. On est arrivé au bout. Merci beaucoup, Sidi. Et merci à vous, les auditeurs, qui avez eu la patience de nous écouter. Et puis, à la semaine prochaine. (Musique)